voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Et vous êtes bien sûr Radio Campus 93.9, c'est Pièce détachée, le retour, l'émission du théâtre vivant à la radio, le théâtre vivant en Île-de-France. Et aujourd'hui, en entretien, nous avons la chance d'avoir avec nous en studio Roxana Borgna, metteuse en scène de Une assemblée de femmes, qui se joue encore ce week-end des 18 et 19 octobre au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes. Elle nous dira si on peut espérer voir le spectacle après cette date à nouveau en Île-de-France. La parole en studio.
Bah bonjour Roxane, on est très heureux de vous recevoir au studio Radio Campus.
Merci.
On a vu le spectacle hier, donc avec Guillaume. Et je ne sais pas, en deux mots, qu'est-ce qui vous a engagé dans ce travail?
Alors en fait, au départ, c'est une invitation de l'Institut français de Jérusalem.
D'accord.
Pour créer un objet théâtral.
Oui.
Et j'ai rencontré Amer Halil, le directeur du Théâtre National Palestinien, donc El Hakawati, qui se trouve à Jérusalem-Est. Et on a cherché une pièce contemporaine. Je voulais absolument travailler sur une écriture féminine. Et en fait, il y a eu le Covid, c'était compliqué. Je recevais les textes en anglais parce qu'ils étaient, voilà, on pouvait pas faire traduire des textes de l'arabe au français juste pour que je puisse les lire. Et finalement, j'ai pas trouvé cette autrice. Donc, ce sera peut-être prochain épisode. Et Jean-Claude Fall m'a dit, mais tiens, regarde l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Je crois que ça va t'intéresser parce que je suis dans une période de revendication féministe. Et en fait, oui, je me suis dit, tiens, comme c'est intéressant, effectivement. Donc la pièce a 2500 ans, c'est une pièce, une comédie d'un auteur grec. Et dans cette comédie, les femmes trouvent que le monde va très très mal parce qu'il est dirigé par les hommes et que la corruption est partout. Et dans la nuit, elles volent les vêtements de leur mari. Elles répètent leur pitch pour aller à l'Assemblée et quand elles arrivent, elles votent tout le pouvoir aux femmes. Et une fois qu'elles ont le pouvoir, elles abolissent l'argent, la propriété privée, les frontières, donc les États, et elles votent la liberté sexuelle. Eh ben, je me suis dit que c'était pas mal comme pitch pour aller travailler en Palestine. Et comme j'avais pas trouvé la source vive, j'ai imaginé partir à la découverte de qui était la femme palestinienne, les femmes palestiniennes. Et j'ai eu l'idée, donc c'était en 2021, en Cisjordanie, de créer des assemblées de femmes. Donc j'ai eu des relais d'associations, des contacts pour aller à Naplouse, Ramallah, Jéricho, Bethléem, Jérusalem, Hébron et dans un village bédouin dans le désert au sud d'Hébron. Et à chaque fois, on venait avec Laurent Rojol, qui est mon collaborateur artistique, et on faisait ces assemblées, gros temps de parole, des cercles de parole en fait, où on se posait, on se demandait si on pouvait les filmer, si on pouvait enregistrer, et je posais des questions par rapport à la thématique de la pièce. Et ensuite, comme un jeu de rôle, on demandait d'imaginer qu'est-ce que ce serait ce monde si les femmes participaient davantage, qu'est-ce que ce serait leur monde idéal. Et avec ces interviews, on est revenu et on a essayé de faire dialoguer la pièce d'Aristophane avec ces femmes rencontrées en Palestine aujourd'hui.
Voilà. Donc c'était des rencontres avec uniquement des femmes.
Oui.
D'accord. Oui. Donc c'est parce que elle témoigne à. Parce que bon, pour dire juste pour les auditeurs, c'est une pièce qui est mélangé avec de la vidéo. Et après la pièce, on a eu le droit de voir le film documentaire que vous avez réalisé donc avec Laurent Rojol.
Oui.
Et donc elle témoigne à visage découvert. ça fume, ça picole, enfin ça vit quoi.
Ah bah oui,
et c'est vrai, non, parce que moi j'ai mes petits a priori de voilà.
Moi aussi, je les avais.
De Parisiens. Et donc on voit que c'est. Sont des femmes, je vais dire un truc très bête, mais comme les autres. Mais, je croyais qu'il y avait eu peut-être un moment où il fallait les trouver, ces femmes, ou les mettre en confiance pour qu'elles puissent parler, parce qu'il y a.
Oui.
Non,
oui.
Dites-moi.
Non, fait, au contraire, bah oui. C'est-à-dire que la grande surprise. Alors, pour revenir à la genèse du projet, donc on a fait dialoguer comme ça. Il y a des veines dans la pièce d'Aristophane, c'est-à-dire elles se disent tiens, il faut qu'on change le monde. Et puis une fois qu'elles ont le pouvoir, elles se disent mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Et c'est là-dessus, hein, c'est ces thématiques-là qu'on a, sur lesquelles on a travaillé avec les femmes. Et quand on a donné les rendez-vous, notre grande surprise, c'est qu'elles sont venues en masse et que parfois, on n'a pas pu monter les assemblées, on n'a pas pu les mettre à l'écran parce que c'était un brouhaha, une cacophonie hallucinante. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde voulait répondre en même temps, riait. Et je me souviens d'une des premières femmes qu'on a interviewées à Jérusalem qui m'a dit « Mais moi, quand j'ai su qu'il y avait une femme française qui voulait savoir ce que je pense, c'était le plus beau jour de ma vie. » Et vous voyez, donc voilà. Et bien sûr, moi aussi, je ne savais pas, je me disais « femme palestinienne » et puis j'avais une espèce de silhouette qui apparaissait. Et en fait, cette silhouette, elle a été pulvérisée, quoi. Parce que d'abord, elles sont multiples. Hein, la nouvelle génération, il y a une nouvelle génération là qui m'a appris beaucoup de choses sur le féminisme. Voilà, donc qui est connectée à tous les réseaux
anglophone.
Et qui est qui parle mieux anglais que moi. Voilà, elles sont complètement connectées sur les social media, même dans le désert. Hein, même dans le désert, elles sont en train de vous répondre. Des fois, elles habitent dans des cavités rocheuses, mais en même temps, elles sont sur Facebook. Et ça alors, pour le coup, c'est sur le plan de la technologie, c'est génial parce que les idées sont aussi véhiculées et elles savent où elles en sont. Et elles n'ont pas du tout le complexe de nommer quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce qui est apparu, en fait, c'est que dès qu'on est en Palestine, bon... C'est en Cisjordanie, après je reviendrai sur l'identité de la Palestine. Mais ce qui apparaît, c'est que ces femmes, elles ont une double charge, voire un double visage ou une double peine. C'est-à-dire que l'occupation est au premier plan partout en Palestine, parce que vous êtes tout le temps empêchés, tout le temps... il n'y a pas de liberté, tout est conditionné et, par l'occupant. Donc c'est une zone occupée. Et je dirais qu'elles, elles portent en elles-mêmes, dans ce pays occupé, elles sont elles-mêmes, leur corps est le véhicule d'une nationalité, d'une Palestine. Et par-dessus ça, bon, elles portent aussi un patriarcat archaïque qui est quand même relativement puissant, voilà, il faut le dire.
Parce que c'est vrai vous avez fait le choix d'un texte très ancien, qui a 2500 ans, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et puis une approche qui est plutôt documentaire actuelle sur la réalité, en fait, de ces femmes.
Oui, parce
que... c'est un croisement entre les deux et...
Oui, mais parce qu'Aristophane est un auteur puissant, en fait. Et il a traversé les siècles, c'est évident. C'est-à-dire qu'il propose cette fable, il propose cette fantaisie, donc il propose cette comédie. Mais la comédie est géniale. C'est-à-dire que
oui, c'est très drôle.
Il parle d'un monde qui se renverse. Les hommes ont le pouvoir, il y a un bouleversement. Et comment la critique arrive, du coup, mais il y a autant de... Donc, à travers la fantaisie, la drôlerie, oui. Le comique des situations, les hommes qui se réveillent, ils n'ont plus d'habits, ils sont obligés de mettre les habits des femmes, etc. Derrière ça, il y a quand même un bouleversement et une volonté de faire apparaître un monde différent et une réflexion. Mais elle est derrière la comédie. Mais en fait, c'est elle qu'on voit apparaître au bout d'un moment et qui nous porte à réflexion. Mais comme il y a un cadre burlesque, eh bien, c'est moins, c'est, la proposition radicale paraît moins radicale que ce qu'elle est en fait.
Voilà. Est-ce qu'on écoute un peu de musique avant d'aborder la suite
On écoute un peu de musique.
De vos aventures.
C'était Shaden Salim, Bête Mortalge ou Bard. Et la parole est de nouveau au studio.
Alors, pourquoi ce morceau de musique que vous avez choisi pour l'émission ?
Alors, c'est un morceau que chante Shaden Salim, une des actrices du spectacle et du théâtre national palestinien. Et je l'aime beaucoup, Shaden. Et en fait, ce qu'on voit pas, parce qu'on chante pas en ce moment dans le spectacle. Normalement, ça,
le cœur n'y est pas.
Voilà, le spectacle se finit. Le monde est inversé, donc les hommes font la cuisine aussi.
Oui, c'est très bien ça.
Ah oui, en arrivant, les hommes font la cuisine.
Prenez note, messieurs.
Ils sont en chemise de nuit et ils coupent des légumes. Et à la fin, ils nous invitent. Donc c'est une vie communautaire et on va célébrer ça dans une fête où on va danser, chanter et manger ensemble. Mais là, la troupe a décidé, vu les circonstances et vu ce qui se passe, que la pièce s'arrêtait avant la fête. Voilà. Elle est reportée. Mais c'est vrai que toute l'ambiance de la création du spectacle et de la vie du spectacle en tournée, pour moi, est baigné dans ces acteurs qui arrivent en chantant tout le temps, qui se mettent à chanter de façon chorale, de façon spontanée. Dès qu'il y a un moment, on attend, ça chante. Avant de jouer, ça chante. Dans les loges, ça chante. Quand on marche, ça chante. Et donc voilà, ces mélodies m'accompagnent en fait. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Chaden de...
C'est vrai que dans le spectacle, ou je ne sais plus si c'est dans le documentaire ou le spectacle, j'ai un témoignage de femme qui disait que le fait de ne pas pouvoir être libre, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'elle veut, lui fait perdre sa voix. Et j'ai trouvé que ça m'a marqué, je ne sais pas, cette idée de voix. Mm-hmm. Et de donner la voix aussi, finalement, à ces femmes qui sont invisibles ou invisibilisées, cantonnées à un rôle... ménager, ou enfin, c'est des témoignages comme ça de la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ces voix?
La voix, c'est l'expression, c'est-à-dire que ce que moi je suis allée chercher au-delà de l'image, au-delà de la... c'était qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, essayer de faire s'exprimer justement celle à qui on donne pas souvent la parole. C'était ça mon désir de rencontre. Après la rencontre, on ne peut pas dire « je veux rencontrer quelqu'un » et la rencontre se passe. Ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu le film documentaire, c'est qu'en fait, les rencontres ont eu lieu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement vous qui allez vers une personne et qui avez un... L'échange a eu lieu... Et des liens se sont tissés et ils sont vivants. C'est-à-dire qu'ensuite, j'avais des appels pour revenir. Et puis quand le spectacle a eu lieu, la première à Jérusalem, tout le monde me parlait des interviews. Moi-même, j'avais déjà en tête de faire quelque chose. Et puis on s'est dit, bon, bah, il faut retourner sur place et essayer de faire un film. Mais ce n'était pas pour faire un film, c'était de faire un objet de tout ça. Et de le leur donner pour qu'elles puissent s'en saisir, mais comme un outil aussi qui travaille sur qu'est-ce que c'est cette domination à laquelle on a affaire quand même, parce que derrière la comédie, c'est ça. Hein, y a une domination masculine aujourd'hui, et elle est sensible en France, et elle l'est aussi en Palestine. Et
vous pensez que l'art peut permettre cette utopie de... Justement, de sublimer tout ça ?
De sublimer, non, mais en tout cas de poser la critique, oui. Une critique sévère aussi.
Mais comment c'est perçu ? Alors, quand vous avez présenté le spectacle là-bas, parce que là, bon, c'était dans l'assemblée de femmes, donc elles sont entre elles, elles sont toutes contentes, mais alors attention, quand il y a les gars là, qui sont là en train de regarder avec leurs moustaches, qu'est-ce qu'ils disent ?
Alors, est-ce que les gars avec leurs moustaches viennent au théâtre ?
Alors voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est
alors,
ça,
ce que je peux vous dire, c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, là, c'est... quand il y a un spectacle qui est joué au Théâtre National Palestinien, la salle est pleine, et les gens ne viennent pas voir telle ou telle pièce.
Ils ont des abonnements.
Le Théâtre National Palestinien joue et les gens viennent.
D'accord. Voilà.
C'est automatique. Et en fait, le jour de la première, les gens sont venus et on faisait un débat à l'intérieur du spectacle. Ça, on l'a enlevé. Mais c'est-à-dire qu'on interrompait on remettait la lumière de salle, on interrompait vraiment la fiction. Et on disait, voilà, avant de vous dire ce que nous, on a voté, on aimerait savoir qu'est-ce que vous auriez voté à notre place. Et alors là, tout le monde s'est engouffré le jour de la première, parce qu'il y a vraiment un désir, hein, un désir de s'exprimer, de rendre compte, de que ça change. Donc, et dedans, bien sûr, il y avait des critiques aussi. Et la première critique, ça a été « Mais pourquoi vous nous représentez comme ça ? Qui vous êtes-vous pour faire ça ?»
D'accord.
Donc personne n'avait vu que c'était Aristophane. Il n'y a que nous sur le plateau qui le savions. Et du coup, à partir du lendemain, on s'est dit « Je suis allée faire présenter le spectacle au début en anglais. » Et puis Firas, un des acteurs, traduisait en arabe. En disant, voilà, la pièce que vous allez voir ce soir, c'est une comédie qui a été écrite il y a 2500 ans par un auteur grec. Et le fait de poser ce cadre permettait de regarder cet objet, puisqu'au théâtre, il s'agit de voir de plus loin, avec du recul et de l'accepter. C'est-à-dire que là, on a retrouvé la même mise en abîme qu'Aristophane à son époque.
Oui.
Ça le rendait permis. Mais ensuite, bien sûr que la critique existe. Et par exemple, sur le film, les femmes elles-mêmes m'ont dit « Ah, ton film, il est super. Hein. Mais alors bon, là, il faut que tu coupes ça, 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 parce qu'il ne faut pas qu'on la voie fumer dans la rue, il ne faut pas qu'elle ait un copain gay, voilà. »
Et ce n'est pas été coupé, ça?
Bah, bien sûr que non.
Ouais, bien sûr.
Je lui ai dit « C'est bien, tu feras ton film. » Mais mais c'est-à-dire, il ne faut pas, dans le sens où, voilà, c'est encore pas tabou. C'est pas tabou de fumer pour une femme dans la rue, etc. Mais ça montre une mauvaise image.
Il y a quand même une des jeunes artistes qui est interviewée dans le documentaire qui disait qu'elle avait été empêchée de jouer.
Elle était censurée.
Bien sûr, je crois pas que c'est un monde idéal. Hein.
Non, mais je dis pas.
Peut-être qu'avant de parler de cet épisode, on va vagabonder sur une autre musique.
Ah bon?
C'est ça, Julien?
Oui.
Tu nous emmènes où?
Et vous n'avez jamais été.
C'était Asmahan, Perla Negra. Vous êtes toujours sur Radio Campus 93.9 à l'écoute de la première pièce détachée de la saison avec voilà, je vous laisse reprendre la parole.
Roxane Bornia.
Roxane Bornia, qu'on a la joie de recevoir à Radio Campus. On parlait justement de cette comédienne qui avait été censurée et qui racontait, c'était son témoignage d'expérience où les étudiants l'avaient soutenue. Enfin, c'était beau de l'entendre justement vouloir tout simplement s'engager dans cette voie.
Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un monde à changer. Hein. Donc, Ashtar, on la rencontre, elle est au théâtre, au Ashtar Théâtre de Ramallah. Et elle nous raconte cet incident. Elle était habillée en académique chère. Hein, elle faisait un spectacle de cirque avec des figures sur la première poétesse de l'histoire, Ene Douana. Et en fait, le directeur de l'université dans lequel avait lieu ce festival, il y avait le ministre de la Culture ou l'équivalent, ONU Femmes qui était présent, etc., l'interrompt en disant qu'elle n'est pas digne de représenter la femme palestinienne. Et par trois fois, elle essaie de recommencer le spectacle. Et par trois fois, elle est interrompue. Et les étudiants, il y a 800 personnes, sont en liesse, quoi. Et en fait, elle a pris le micro et elle leur a dit « Bon, bah, écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant. Mais voilà, maintenant, c'est le moment de partir, quoi. » Voilà. Et elle
chacun
est devenue,
son temps.
Voilà, chacun son temps. Et elle est devenue une figure, comme une figure quand même de résistante et en plus féminine de cette nouvelle génération. Oui, il y a... Alors là, je vais revenir sur... Sur ce double visage, c'est-à-dire que presque on veut garder le visage ancien qui correspondrait, vous voyez, à une image un peu orientaliste de la Palestine, mm-hmm. parce que aussi l'image émancipée serait plutôt celle de l'ennemi, entre guillemets. Hein, vous voyez, le... mais ça, vous ne pouvez pas brider la jeunesse. Hein, ils sont, donc ça ne marche pas. Et. Ça bouge, c'est déjà en route, l'émancipation, le changement, la critique, elle est très, très claire. C'est-à-dire que quand vous êtes opprimé, quand vous avez un ennemi aussi féroce que l'interdiction de s'habiller, l'interdiction d'étudier, vous savez très bien à qui vous avez affaire, donc vous savez très bien louvoyer, dénoncer... et ça avance, voilà.
Du coup, le théâtre lève le voile sur tous ces tabous. Et est-ce que vous pensez que c'est une arme assez forte pour cela?
Bah, c'est une arme pour ceux qui viennent au théâtre.
Mais voilà, c'est
je veux
ça.
Dire, bien sûr, mais les mots sont action. Dire. Agit dans nos imaginaires pour dessiner quelque chose de différent. Le théâtre est un merveilleux outil pour ça, pour inverser le monde.
Et dans la pièce, vous parlez, bon, et ça ne parle pas de guerre, hein, ça parle de femmes qui veulent s'émanciper, qui veulent l'égalité.
C'est une forme de combat, Guigui, quand même.
Non, mais je n'ai pas dit le contraire, Alice, quand même. on ne peut pas s'empêcher de penser à l'actualité, évidemment.
Bien sûr.
Et donc, vous êtes en contact avec ces actes, enfin, ces femmes là-bas. Comment ça se passe?
Voilà, donc c'est là où... C'est là où on rencontre la réalité de la Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire que la Palestine aujourd'hui, elle a au moins trois facettes. Il y a la Cisjordanie occupée, il y a Gaza qui est une prison à ciel ouvert, enfin qui maintenant est une zone génocidée à ciel ouvert et une espèce de camp de concentration abominable. Et il y a les camps de réfugiés en Jordanie, en Syrie et au Liban. C'est ça l'identité de la Palestine. Donc, nous, notre troupe, elle est en Cisjordanie. Alors, bien sûr, tout le monde a une famille, parce que c'est des grandes familles, quelqu'un, une connaissance à Gaza. Ou, par exemple, dans la troupe, il y a Iman Aoun, qui est une actrice et directrice d'un théâtre à Ramallah. Qui a fait un projet en 2009 après l'opération Plomb durci pour suite au massacre de la population civile par les Israéliens. Elle est allée interviewer les enfants entre 10 et 14 ans. Ils ont fait un atelier de théâtre avec 35 jeunes adolescents. Et ce texte a été publié sous le titre des monologues de Gaza.
D'accord.
Aujourd'hui, et le 25, dix artistes, enfin écrivains de théâtre de ces monologues ont été invités en France avec le programme Pause. Et avec Iman, on a déposé ce programme, appelé des théâtres pour essayer de les faire bénéficier de ce programme pour sortir de Gaza. Donc les actions. Donc Gaza est présent tout le temps. Hein. Mais là, la troupe se trouve en Cisjordanie. D'accord. Et ce sont des vies très, très, très différentes.
Et, alors, et j'avais une autre question, enfin, sauf tu me dis.
Non, non, vas-y.
Est-ce que vous avez du mal à être programmé? Parce qu'on entend tellement de bêtises en France. Je ne sais pas qui pourrait interpréter ce spectacle, par exemple, de manière complètement idiote et dire non, ne le présente pas. Je ne sais pas. Enfin,
mais... bah, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Bah, bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire que la Palestine, vous l'avez bien vu, c'est totalement politique. Donc, qui aujourd'hui va prendre le risque de programmer un spectacle du théâtre national palestinien?
Vous avez été beaucoup refusé, parce que j'ai vu que vous êtes passé à Montpellier. Et
On a été invité à l'Institut du Monde Arabe en 2023, avant les événements. D'accord. Ensuite, Montpellier, au Printemps des Comédiens, nous a invités en juin 2024. Et aussi Nicolas Lux, qui a une scène à Boulazac, un festival qui s'appelle Horizon. Mais beaucoup des personnes que j'ai contactées n'ont même pas répondu.
Même pas répondu.
Mais après, c'est aussi le problème de l'industrie culturelle. Hein. Mais c'est sûr que le sujet fait peur. C'est sûr que... Enfin... moi, je n'ai pas eu de subvention cette année. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Mais en tout cas, je n'ai eu aucune aide des partenaires publics quand je leur ai annoncé que quand même ce spectacle venait et que la compagnie le portait pour aller au Théâtre du Soleil, qui pour moi est le plus beau théâtre du monde. Donc il y a, à mon avis, quand même quelque chose.
D'accord. Et donc là, pas de programmation à venir. C'est...
Donc là, je pense que l'opinion publique a changé. Elle a changé... je l'ai senti parce que je présente le film en tant qu'autrice indépendante et elle a changé dans les mois de mars-avril. On était vraiment kidnappés, quoi. On était face à cette horreur, on était assommés, c'était horrible. Et on ne voyait plus les terroristes dans les imaginaires. J'ai senti que les Palestiniens n'étaient plus les terroristes, mais devenaient vraiment les martyrs, les victimes. Et que le génocide était... Voilà, maintenant, c'était plus un mot tabou, c'était là, ça nous frappait le visage tout le temps. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis.
C'est la question, c'est quel point de fuite on peut trouver, justement, et quelles ressources, parce que, Guigui, quand on est allé voir le spectacle, tu me disais, oui, mais le public au Théâtre du Soleil est convaincu, en fait. Donc, quelque part, c'est où trouver, peut-être...
Oui, c'est-à-dire que quand Ariane a dit oui au spectacle, c'est parce qu'elle a senti que c'était d'abord pas un spectacle sur le conflit et sur l'occupation et sur la guerre et sur le génocide, mais que ça permettait aussi de proposer une image vibrante, forte, vivante de ce qui est en marche, de ce mouvement qui est en marche en Palestine comme il est ailleurs. Et qu'on avait des portraits de femmes et qu'on avait une troupe qui servait magnifiquement le plateau et que tout ça, c'était dans le sens de la vie. Et dans le sens d'autres représentations que les représentations déplorables qu'on a eues jusqu'à maintenant. Parce que comme vous l'avez dit... Bah,
oui, c'est florissant ça.
Voilà. Ouais. Voilà. Et donc je pense que cette troupe-là et ce projet-là a un avenir par rapport à ce qu'il porte. Voilà.
En tout cas, on vous souhaite de poursuivre ce travail et on va terminer l'entretien donc maintenant pour préparer la suite de l'émission. Mais en tout cas, on vous souhaite vraiment de poursuivre ce travail et de voilà, c'est aussi la Radio Campus, c'est aussi une façon d'être en lien avec peut-être des programmateurs potentiels.
Mais oui, parce que le fait d'être au Théâtre du Soleil.
C'est déjà quelque chose.
C'est le plus bel écrin. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui viennent voir et qui s'intéressent. Et je suis sûre qu'il y aura une suite. Oui.
Donc, en tout cas, on vous le souhaite.
L'Assemblée des femmes, donc d'après Aristophane, c'est une version palestinienne. Et c'est mis en scène par Roxane Bornia, qui était avec nous.
En merci collaboration avec Jean-Claude Fall et Laurent Rojol.
Pour le documentaire.
Absolument.
Merci et il beaucoup, reste le 18 et le 19 pour aller la voir.
Voilà. Oui.
Donc, allez-y. Bon, c'est peut-être complètement plein.
Oui, non, il reste deux dates.
Non, parce qu'on a trois représentations et que la salle est grande. Donc, il y a une représentation à 15h le samedi, à 19h30 le samedi et à 13h30 le dimanche.
Allez-y, prenez vos billets.
Allez-y. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Dites-lui là-haut qu'on s'en fout, nana.
Tu crois vraiment qu'on va bosser jusqu'à ce qu'on soit cabossé? On veut pas vieillir au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
Ah ouais.
Vous êtes sur Radio Campus.
Et c'est pas moi qui fais la présentation,
non,
Alice.
Non, c'était Pat Cala, Cabossé. Et on va pouvoir passer maintenant aux chroniques.
Yeah.
Il s'agit d'une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Je sais. Et pour la première de nos chroniques, ce sera Entre-temps. Entre-temps,
de Philippe Découfflé,
et la compagnie DCA
Villette. Philippe Découfflé, donc, le chorégraphe du bicentenaire de la Révolution française, il y a plus de 35 ans déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Depuis qu'il a promené son sens du spectaculaire jusqu'au Crazy Horse, affirmant son esthétique du clinquant tendre, du clin d'œil attendri, proche du cabaret. Entre-temps, sa dernière création s'annonce comme une méditation sur le temps et vire parfois à un thé dansant pour soixantenaire mélancolique. Tout commence par lui, Découfflé lui-même, incognito, en bord de plateau, masque sur le visage, dodelinant sur une bande-son d'un autre âge. Quelques spectateurs touchés par cette bienveillance généreuse, se laissent aller à danser depuis leur siège. Scène étrange d'une boom de boomers, où chacun feint d'ignorer que la jeunesse ne revient pas. Il y a là une forme de tendresse, certes, mais aussi ce malaise diffus des adultes qui refusent obstinément de vieillir, de penser leur propre disparition, d'assumer les conséquences de leur vie. Le spectacle tout entier est pris dans cette nostalgie 80s, avec son esthétique Rita Mitsouko, ses costumes Jean-Paul Good, ses lumières Mondino, la musique de Laurie Anderson ou de Supertramp, hein, autant de choses que plein de gens de 20 ans ne connaissent pas. La danse, elle, rejoue les ombres de Bagouet, Chopineau, Larieux, Brumachon, Diverès, nom d'un âge d'or désormais révolu. On est d'abord heureux de les sentir ressurgir, ces revenants qui nous ont fait grandir. Ils ont disparu si vite de nos scènes, balayées par un virus et la non-danse. Puis on mesure à quel point cette danse, hier complètement folle et nouvelle, semble ici inoffensive, adoucie, dépourvue de nerfs, comme piégée dans un musée sous verre. Découflé conserve tout son humour, sa légèreté, son goût du bricolage poétique, objets qui grincent, accessoires animés, bandes-sons à effet remix et rewind. Mais cette fantaisie peine à masquer le vide central du projet, la simplicité chorégraphique faite de marches, de croisements, de sourires, paraît tenir lieu de pensée. La pièce prétend interroger le temps, elle se contente d'en illustrer la lenteur, la circularité. Certes, voir sur scène des corps âgés émeut. Il rappelle ce que le théâtre a perdu de réel, combien la danse est cruelle. Et pas de jeunisme ici, hein, c'est heureux. Mais cette noble intention tourne vite au fétichisme bien pensant où le vieux danseur devient le dernier gadget humaniste. À force d'enrober le sujet de tendresse, on évite toute révolte, le spectacle caresse là où il devrait mordre. Et puis le final participatif, hein, cette kermesse molle où tout le monde danse sur Gloria Gaynor, achève de dissoudre le propos dans une mousse de bonne humeur. On est prié d'applaudir et tout le monde s'exécute, content d'avoir passé un moment joyeux, mais moté. Terrible, hein. Le public sort le cœur léger, mais la tête vide. Découflé voulait parler du temps, il nous livre un divertissement, une commémoration sans révolution. Le titre est bien trouvé, entre-temps, c'est-à-dire entre deux époques, entre deux gestes, entre deux idées, suspendu, poli, inoffensif. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, entre-temps, moi, je suis arrivée juste à temps. Le petit jeu de mots. Écoute, moi, j'ai trouvé ça assez creux. Déjà, je pensais qu'il était mort, mais en fait, non. J'ai été surprise de le voir sur scène.
Bon, ce soir, Thomas l'a tué.
On
je
est
pense
horrible.
Que ce que vient de dire Alice est bien pire que ce que j'ai dit.
Mais bon, je suis inculte. Alors, c'est vrai que je ne suis pas forcément très cultivée en termes de danse, mais... J'ai pas été touchée, j'ai pas été emballée de ce ballet. Effectivement, c'est une programmation XXL que propose la Villette. Alors, il y a beaucoup de danseurs, effectivement, plutôt vieux, plutôt pas beaucoup de jeunes. Mais effectivement, je voyais pas trop le propos du spectacle, si ce n'est oui, on s'amuse ensemble, on danse. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, autant aller dans un bal populaire ou dans une boîte de nuit. Mais bon, voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais après, est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont proposées ?
Alors, jusqu'au 26.
Et bon. Ça sera encore possible de les voir au bord de Seine à Juvisy-sur-Orge les 6 et 7 février. Et puisque tu as la parole, Alice, continuons tout de suite avec Urvari de la compagnie Rasposo.
Alors là, autre expérience. Alors, Urvari. Effectivement, c'est une mise en scène de Marie Moliens, une création. Sous chapiteau, qui est récente, hein, elle a été créée en 2024, donc c'est pas du réchauffé, hein, comme notre ami Découflé. Alors, Urvari, ça veut dire tohu-bohu, c'est une tentative de fuite où l'on retrouve ce qui donne de la force de vivre, le goût du risque, l'audace, de la désobéissance comme source de joie et de liberté. La base. Pour moi, c'est la base. Au début, on entre dans le chapiteau comme on entre dans le ventre d'une baleine, pris au piège et tenu en haleine jusqu'au bout. Je n'ai pas décroché du spectacle. Le public est positionné de chaque côté, face à face. Entre eux, il y a la scène, une scène en forme de navire. Et sans trop savoir qui est susceptible de passer par-dessus bord, car le propos du spectacle est sans complaisance. Un spectacle de la compagnie donc Rasposo, comme on l'a dit au début. C'est ce qui signifie rugueux en espagnol, comme m'a confié la metteuse en scène au bar, Marie Moliens, à l'issue du spectacle. Pour la petite parenthèse, on retrouve la figure du guignol, puis ce pantin connu, donc le guignol, hein, est mis au pas dans les parcs d'attractions. Ce personnage, cette figure... est incarné ensuite par un vrai comédien et on re- retrouve sa force originelle par le pouvoir de la subversion qu'il incarne. Il est ensuite donc du coup incarné par cet homme musclé, très très beau, au regard noir et provocateur. Rien ne le fait plier, pas même les matraques. Il se livre à la fin du spectacle à une révolte contre l'ordre établi. Les obstacles volent et ce bouquet final de haute voltige à la fin du spectacle m'a laissé sans voix. C'était incroyable. Une sédition sublimée par le geste de s'élever. Non mais vraiment magnifique. Questionnant ici là l'infantilisation des populations, leur mise au pas, l'équilibre infime entre la sécurité et la liberté. On retrouve aussi tout au long du spectacle plusieurs Pinocchio pleins de résonance au monde de l'enfance. Une enfance sous la domination des adultes. L'encadrement normatif de ces activités prête à sourire, c'est vrai. On retrouve aussi la figure du clown, ce monsieur loyal, pas si loyal que ça, bouscule nos certitudes. Un jeu s'instaure entre manipulé, manipulateur, objet, sujet. La transgression de l'ordre offre le pouvoir de s'humaniser, d'exister, de respirer. Ces corps en mouvement s'affranchissent de leur pouvoir d'attraction par le geste de créer, de se créer sa vie. La vie de ces pantins ne tient qu'à un fil et dépend de leur tuteur, puis ils s'en affranchissent progressivement. Cette sensation de flottement entre les différentes séquences du spectacle donne l'impression de passer d'un rôle à l'autre, se transformant tour à tour avec ivresse. Les musiciens donnent aussi leur souffle à ce conte initiatif au vacarme joyeux. Un tohu-bohu, j'ai adoré. Allez-y, courez-y. Est-ce qu'il y a d'autres dates?
Alors, attends, avant de passer aux dates,
pardon.
Je peux peut-être prendre la parole.
Désolée, je me suis enflammée.
Alors, effectivement, tu l'as dit, c'est une variation sur le thème de Pinocchio, qui est faite avec beaucoup de références, beaucoup de liberté, et qui est un spectacle que je ne conseillerais pas forcément pour les enfants, puisqu'on a, des morceaux de Shining dedans. On a quand même des références à Shining.
Non, c'est vrai que le guignol fait vraiment flipper.
Tu peux peut-être me laisser parler.
Pardon.
Non, mais il y a vraiment des références à Shining, notamment avec la scène du vélo. Mais on a surtout, tu l'as dit, un monsieur loyal qui est d'une violence phénoménale, qui est totalement tyrannique, qui contraint, qui torture les artistes, qui les pousse plus loin que leurs limites, y compris en les droguant, en les maltraitant. On est même poussé par moments à se demander, mais est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on doit accepter que même si c'est pour du jeu, parce que c'est un spectacle, on ait une telle mise en scène de la maltraitance? Et je pense que c'est un peu un des buts de la mise en scène, de nous interroger sur qu'est-ce qu'on accepte comme maltraitance des artistes pour que ces artistes nous distraient. Parce que c'est ça qui se manifeste pendant le spectacle, c'est qu'en fait, on nous montre ce monsieur loyal qui pousse ces artistes au-delà de leurs limites, qui les torture pour que le spectacle continue. Et on est là, moi je trouve, on est interrogé sur notre capacité à accepter que pour nous distraire, ces artistes soient maltraités. Et c'est là, je trouve, la question la plus forte que pose ce spectacle. C'est, est-ce que tout ça vaut ça? Et oui, allez-y, c'est vraiment formidable. Et
bizarre.
Et allez-y aussi pour vous questionner sur ce que vous êtes capable d'accepter en tant que spectateur, sachant que là, à ma connaissance, c'est pas comme certaines pièces dont on a pu parler ici. Il y a pas la maltraitance, c'est joué, mais elle interroge. Et oui, ça
après
se rend
un rapport au pouvoir. Hein. C'est une mise en jeu du pouvoir par ces personnages qui justement luttent contre l'ordre établi, comme le guignol, Pinocchio, le clown qui renverse nos certitudes, et puis l'enfant qui est plein de vérité et qui questionne aussi le monde.
Et vous pourrez les voir donc juste avant notre prochaine émission, entre le 7 et le 11 novembre, à l'espace cirque de l'Azimut à Antony.
Oui.
Et Alice, c'est encore à toi de parler.
Ah bon?
Et
mais
oui, pour nous parler du MIMA.
Un petit peu plus court, hein, je pense.
Ah bon?
Oui, un petit peu court pour nous parler de MIMA.
Mais on peut passer à Devant-Fort tout de suite, si tu veux.
Bah, alors, je vais être très rapide. On a fait cet été, on a un petit clin d'œil à l'été. Allez, on est en automne, mais on est allé au festival de marionnettes MIMA, qui donne sa part belle aussi aux femmes. Alors, c'était pas une assemblée de femmes, mais c'était quand même pas mal d'artistes qui avaient toute la place dans ce festival. Nous sommes allés voir plusieurs spectacles. Alors, ça se passe dans le sud-ouest.
À Mirepoix,
en Ariège, c'est ça. Et nous sommes allés voir un spectacle qui s'appelle « Ma petite dame ».
Alors, c'est un spectacle de marionnettes qui est pour adultes, qui est poignant. C'est une femme qui se débat avec la marionnette. Elle, la marionnette, c'est elle en format marionnette. C'est une danse avec elle-même. Il y a un soupçon de violence, c'est celle de ce corps, celui de la marionnette qui s'échappe, qui se dérobe, et l'esprit, elle, qui cherche encore et toujours à garder le contrôle, à s'imposer sur le corps. Avec elle, on se sent faiblir, on veut lutter, on sait qu'on est condamné à perdre, elle sait qu'à un moment, elle ne pourra plus continuer, que l'esprit devra céder face à la défaillance du corps. Et c'est terriblement intense comme moment, puisqu'il y a toute cette vérité de cet artiste qui se montre en train de décliner, mais elle le fait avec beauté, avec grâce. On est là à se dire que ce qu'on doit faire, c'est comme elle, continuer à soumettre notre corps, à soumettre notre marionnette à notre volonté.
Oui, c'est interprété par Claire Egen, qui est une figure connue dans le monde de la marionnette, puisqu'elle est formatrice aussi au Théâtre National de Charleville-Mézières. Et justement, elle avait envie de montrer que ce n'est pas seulement une pédagogue, mais une artiste à part entière, et elle a créé ce spectacle pour lutter aussi contre tous les clichés qu'on a autour de la vieillesse et pour en jouer. Donc, il repasse quand ?
Alors, c'est à voir le 8 novembre et du 30 mars au 4 avril 26 au Théâtre Victor Hugo de Bagneux. Mais tout de suite, on parle de Ventfort. Et c'est de nouveau à toi, Thomas.
Yann Fossé revient au théâtre après 10 ans de silence et ce retour à la densité d'un murmure. Ventfort, poème scénique plus que pièce, s'ouvre au 14e étage d'un non-lieu. Un homme rentre chez lui, une femme y vit déjà, un jeune homme occupe l'espace. Triangle flou, huis clos suspendu, vertige vertical. Rien n'est vraiment clair. Qui rêve, qui se souvient, qui meurt. Le vent souffle dehors et dedans et tout se délite. Fossé, familier de nos scènes grâce à Régis et Chéreau, poursuit sa métaphysique du peu, un théâtre de la présence fissurée où le temps se replie sur lui-même jusqu'à ne plus tenir que dans une expiration. La langue scandée, ressassée est d'abord musique. Fossé compose comme à Pergis, par boucle, refrain, retour obstiné, jusqu'à faire vibrer le mot vide de son sens premier. Dufay épouse ce flux verbal avec une précision clinique. Les accents des acteurs deviennent matière poétique. Ce n'est plus la langue qui s'impose aux voix, ce sont les voix qui sculptent la langue. Ce grain d'étrangeté, cette inflexion presque accidentelle donne à la parole une profondeur physique, comme si le texte respirait par leur corps. Le plateau s'étire en une géométrie froide, un appartement abstrait, suspendu dans le vide, baigné de gris et de fumée. On songe à All of Us Strangers d'Andrew Haig, même sensation de bulle urbaine où les fantômes côtoient les vivants, où la mémoire devient décor. Dans ce lieu clinique, la mise en scène ose la chair, les comédiens se frôlent, s'embrassent, se dénudent. Kaori Ito a chorégraphié des gestes ni abstraits, ni réalistes, mais figuratifs, charnels, presque maladroits, comme si ses corps tentaient de dire ce que la langue englué ne parvient plus à formuler. Cette physicalité empêche le texte de se dissoudre dans la pure poésie, elle lui rend sa pesanteur humaine. Les vidéos, crépusculaires, granuleuses, en noir et blanc, et la fumée rase au sol ouvrent les portes du rêve, tout s'y brouille, tout s'y répond, l'image devient un palimpseste du texte, une mémoire qui flotte. Seul accro, la musique, Madonna, Radiohead, revisitée, certes, mais trop signifiante, trop littéraux, leurs paroles surlignent là où le silence suffisait. L'effet étrange, ces tubes fatigués qu'on croit connaître projette sur la pièce un voile suranné comme si Fossé avait vieilli plus que nous. Mais le soupçon inverse n'est-il pas plus juste ? Peut-être sommes-nous, nous, devenus incapables de goûter cette lenteur, cette langue de ressassement et d'attente. Le monde va trop vite, nos cerveaux scrollent, nos attentions sont trouées. Fossé demande du temps et c'est précisément ce que nous n'avons plus. De là vient sans doute ce sentiment de décalage. Le couple qu'il met en scène appartient à un avant MeToo, avant l'économie saturée du désir. L'adultère, le suicide, l'ennui, le crime passionnel, tout cela sonne daté. Mais d'une datation paradoxale, ce n'est pas la pièce qui a vieilli, c'est notre rapport au tragique qui s'est émoussé. Dufay, lui, ne cherche pas à la moderniser, il la confronte à notre fatigue contemporaine, à notre incapacité de contempler. Sa mise en scène a la rigueur d'un rituel. Elle réinstalle la poésie comme condition d'écoute, l'introspection comme résistance. C'est un geste politique, discret mais tenace, réapprendre à voir. Alors Ventfort, n'est pas sans maladresse, mais il creuse un sillon rare dans le théâtre aujourd'hui. Il rappelle que la lenteur n'est pas un défaut, que la contemplation n'est pas une fuite. Fossé par Dufay nous impose une forme de pause existentielle, un moment où l'on cesse de tout comprendre pour enfin entendre. Le vent souffle, le monde continue, mais l'art, un instant, fait silence. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Michel ?
Eh bien, ouais, je veux dire. Tout d'abord, je veux dire que je soutiens l'échangeur, donc le théâtre où se situe,
oui,
qui a des grosses difficultés visiblement. Et d'ailleurs, Gabriel Dufay, le metteur en scène, est venu à la fin du spectacle. On n'est pas allé à la même séance pour en parler. Il a d'ailleurs lu un texte, un mail qu'il lui a envoyé Yon Fossé, qui était très intéressant, très beau, sur le rapport à l'art, à la guerre et à la paix. Mais il n'empêche que je suis peut-être moins clément pour un coup, je pense, que toi, pour plusieurs raisons. Alors déjà, il faut quelque part un peu adhérer à cette langue du ressassement. C'est une esthétique, moi, que j'arrive complètement à intégrer quand je la lis. Quand je la vois, j'ai beaucoup plus de difficultés. Quand je l'entends, pardon. Et donc hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce style-là, c'est en fait tout ça. Si vous avez lu, par exemple, Thomas Bernhardt ou Céline, cette façon d'achoper sur les mots et puis de revenir dessus de façon obsessionnelle, voilà, c'est ça la langue du ressassement, c'est un processus assez établi, disons. Bon, ça c'est un point, mais quelque part c'est pas pour moi un point d'arrêt, c'est-à-dire que je pouvais quand même regarder ça. Mais les propos qu'il y a dans la poésie en l'occurrence me fascinent pas sur le temps, le présent, ça m'a pas complètement pris. Je suis comme toi assez circonspect sur la question de ce personnage liminaire qui tourne autour de la scène et qui chante deux chansons, dont une de Madonna en boucle. Ça, j'ai pas compris vraiment. Et je dirais que pour moi,
Life is a mystery.
Oui. Mais le point le plus dur pour moi, c'était quand même le fait que les deux personnages qui sont censés jouer, qui jouent en fait en gros l'amant et sa femme au personnage principal, j'ai l'impression qu'ils sont un peu des laissés pour compte de ce spectacle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la chorégraphie qui normalement devrait être plus dense, etc., pour eux, enfin, devrait être plus forte, elle est comme très légère. Elle est pas à la hauteur en fait pour moi du personnage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a évoqué des coupes budgétaires et qui avaient impacté le spectacle. Je me suis demandé si c'était pas une des causes, parce que c'était vraiment pour moi assez visible. Mais bon, voilà. Sinon, je trouve que c'est effectivement une belle tentative. Il y a quand même quelque chose. Déjà, par exemple, je suis d'accord aussi sur la scénographie. Elle est très très bien, très intéressante, elle est très bien, elle est très belle. Mais je pense que pour moi, ça m'a pas totalement porté. Voilà. Mais je pense que ça se voit quand même. Il faut aller le voir. C'est jusqu'au 17.
C'est ça. À l'échangeur, qui a vraiment besoin de notre soutien parce que la disparition d'un théâtre, c'est ça qui est en jeu. Et bien, c'est terrible.
Et il est temps pour nous, avant de nous quitter, de récapituler. Nous avions aujourd'hui une assemblée de femmes mise en scène par Roxane Borgna, désolé. Encore trois représentations au Théâtre du Soleil les 18 et 19 octobre. Nous avons parlé en chronique d'Entretemps avec Philippe de Coufflet qui n'est pas encore mort. Dourvary de la compagnie Rasposo, de Ventfort, de la compagnie Incandescence, et de Ma Petite Dame, mise en scène et jouée par Claire Egen. Nous nous retrouvons sur Radio Campus 93.9 le 10 novembre. L'émission était préparée par Alice, avec Michel, Guigui, Thomas et à la présentation, c'était Julien. Donc le 10 novembre, on vous attend, nous on seront là et à bientôt.
À bientôt.
Salut. Je me suppose, must rise and fall.